Bon, c'est notre dernière séance avant les vacances, si je ne me trompe pas. Oui. Donc on va en profiter pour rappeler le projet d'ensemble, hein, pour rappeler ce qui est prévu de faire d'ici la fin de l'année, et vous rappeler ce qu'on a fait depuis le début. Voilà. Alors, on a commencé l'objet d'étude, le théâtre, en petit 1. La scène d'exposition, on a vu trois scènes d'exposition, hein, avec l'opposition texte lu, texte joué. On a vu Phèdre, acte 1, scène 1, Les Caprices de Marianne, acte 1, scène 1, et Montserrat, acte 1, scène 1. Hein, c'est le projet, ce sera peut-être de creuser un peu la scène de Montserrat. Ensuite, en deux, on a vu une héroïne tragique, Phèdre, le trouble et des sentiments. En trois, en projet, donc l'argumentation. Hein, donc ça sera à la fois, on traitera à la fois l'objet d'étude théâtre et on commencera en même temps l'objet d'étude convaincre, persuader, délibérer. Ça, vous l'avez senti déjà. Avec, je crois, trois extraits de Montserrat que je vous ai distribués sur ce thème-là, il me semble. Ensuite, quatrièmement, le dernier texte d'hier de Montserrat, espace scénique, espace dramatique, dont on a déjà parlé, le rôle du récit au théâtre. En cinq, le texte d'aujourd'hui, un avis sur le rôle du metteur en scène, le texte de Jacques Copeau. Ce qui fait, si on mettait ces textes-là sur notre liste, ce qui en ferait 12 déjà, hein, ce qui ferait quasiment la moitié de notre objectif. Ensuite, deuxième objet d'étude qu'on commencera dès qu'on aura fini Montserrat, le biographique, avec en projet une œuvre intégrale qu'on a commandée aux Vous Frères Humains, mais on étudiera aussi au moins un extrait du livre de ma mère pour comparer le début des deux romans, hein, de Au Vous Frères Humains et du livre de ma mère. Peut-être qu'on fera un autre extrait du livre de ma mère, ça dépend du temps qu'on aura. Ensuite, on n'aura pas terminé avec l'objet d'étude convaincre, persuader, délibérer. Il nous restera à voir l'essai. On peut penser à Montaigne, par exemple, hein, c'est fondateur de l'essai. L'apologue, on ne sait pas ce que c'est, mais on va le traiter. Hein, bon, pour vous, dites-vous que l'apologue, c'est la fable, et puis ça sera aussi simple. Donc, l'apologue, le conte philosophique, bon, on pense à Voltaire, par exemple, à Candide. Hein, et comme œuvre complète, vous aurez, là, cette fois-ci, donc en ce qui concerne convaincre, persuader, vous aurez les fables de La Fontaine. Il reste à déterminer l'édition dans laquelle vous lirez. Hein, l'an dernier, on avait pris une édition quasiment pour enfants. On verra cette année si on garde la même chose ou pas. Et puis en dernier lieu, pour préparer, j'allais dire les vacances, mais ça sera plutôt l'épreuve finale pour vous, la poésie. Sous la perspective des formes fixes à la liberté, c'est-à-dire qu'on va partir du sonnet, hein, on verra au moins deux sonnets des Fleurs du Mal de Baudelaire. Ça risque d'être À une passante et Parfum exotique, et puis on verra aussi La forme du pantoum, et ça va être Harmonie du soir, toujours de Baudelaire. Vous sentez que l'œuvre complète, là, cette fois-ci, ça sera Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qu'on pourra trouver en édition Librio. Hein, il n'y a pas besoin d'acheter autre chose, ça suffit largement. Alors si vous pouvez l'acheter dès maintenant, hein, ce n'est pas interdit. Simplement, en ce qui concerne les fables, je me réserve, puisque d'abord, vous risquez de l'avoir chez vous, pour une bonne partie d'entre vous, même si vous les trouvez dans des livres illustrés pour enfants, pourquoi pas, hein, ça n'est pas interdit. Donc sinon, si vous voulez anticiper sur la poésie, vous pouvez toujours acheter en Librio Les Fleurs du Mal de Baudelaire et commencer à les feuilleter. Donc on verra ces trois formes fixes, le sonnet, deux sonnets, un pantoume. On risque de voir également probablement une autre forme fixe qui est la forme de la ballade, hein, puisque c'est une forme qui a un petit peu persisté du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Et puis on essaiera de voir en finale au moins peut-être un poème en prose, pour vous montrer que la poésie c'est pas forcément des rimes, hein. Et puis au-delà du poème en prose, un poème peut-être en vers libre, voilà. Un poème en vers libre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut même être des lettres. Hein. Vous avez un mouvement au XXe siècle qui s'est appelé le lettrisme, dans lequel il n'y avait plus de mots, il n'y avait que des lettres. Hein. Donc voilà, ce n'est pas ce qu'on vous donnera. Hein. J'ai en tête il y a quelques points. Alors, c'est quoi? C'est comme si tu écrivais en disposant comme de la poésie, un petit peu, moi disons, ce qui te passe par la tête, sauf que le poète, lui, c'est pas ce qui lui passe par la tête, que c'est composé, mais c'est un peu ça. Hein, tu ferais des petites phrases jolies que tu mets les unes au-dessous des autres, et voilà. Déjà, chez Prévert, on a des exemples de cet ordre-là. Hein. Trois allumettes allumées une à une dans la nuit, la première pour voir tes yeux, la seconde pour voir ta bouche, la troisième pour voir je sais plus ce qu'il veut voir encore, et la nuit tout entière pour te serrer dans mes bras. Voilà, à partir de ça, Prévert nous fait un poème. Voilà. Ou bien, par exemple, Apollinaire, un poème en un vers, et l'unique corbeau des trompettes marines. Vous débrouillez avec ça, oui. C'est un poème du recueil Alcool, hein, donc il a vendu le recueil, quand même, il n'a pas vendu que ce poème-là tout seul. Alors, la trompette marine, c'est comme un violon avec une seule corde, si vous voulez. T'es jaloux. T'es jaloux. Voilà, mais c'est pas n'importe qui. Bah, la différence, c'est que c'est pas n'importe qui. Tu peux... Alors, on vous met... Je vous propose de lire Baudelaire parce que, disons que c'est fondamental, un peu simple, c'est encore de la poésie rimée, mais il est certain que si tu aimes la poésie, tu peux lire Alcool d'Apollinaire et tu trouveras de tout. Hein, tu trouveras de tout. C'est-à-dire que chez Apollinaire, tu vas avoir à la fois de la tradition et puis en même temps, tu vas avoir des poèmes tout à fait de la tradition et puis des poèmes tout à fait modernes. Hein, tout à fait des poèmes par exemple Conversation, hein, verse-moi un peu de café Lenson s'il te plaît, ouais, bon voilà, avec ça c'est un petit morceau de poésie, hein, d'un poème d'Apollinaire, ou bien quelque chose de plus glorieux, de zone au début, à la fin tu es là, de ce monde ancien, bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin, etc. Qui ressemble un peu à une histoire, voilà, mais qui est quand même de la poésie. Il dit d'ailleurs dans ce premier poème Zone, tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut, et il ajoute, voilà la poésie ce matin. Hein, donc il est en train de nous dire que la poésie, elle est aussi dans la publicité. Hein, elle est aussi dans les affiches, elle n'est pas uniquement dans les recueils de poésie. Voilà, en ce qui concerne le programme. Alors on a, hier j'étais un peu perdu dans ma correction, on va reprendre à propos de des métaphores comiques. Vous savez que j'avais pas retrouvé la deuxième, elle était pas loin, mais bon, elle était juste au-dessus. Hein. La deuxième métaphore, ou la première plus exactement métaphore comique, c'était une odeur d'amant. Hein, ce que j'attendais. Voilà. Alors, une odeur d'amant, pourquoi est-ce que c'est métaphorique? Ben, on ne reconnaît pas les amants à l'odeur, hein. il y a quelque chose, il y a une clé là-dedans. C'est-à-dire, odeur, c'est mis pourquoi? Un soupçon, je soupçonne qu'il y a des amants. Hein. Je flaire les amants, c'est ça l'idée. Hein. J'ai flairé qu'il doit y avoir des amants dans le secteur. C'est de la prémonition hein, pour le, de sa part à Claudio, mais bon, voilà. Donc on s'était arrêté, nous, à la question sur ces métaphores comiques. Il nous restait le vocabulaire tragique. Alors le vocabulaire tragique, on essaie de ne pas être trop lent là-dessus. Je vous propose... Vous avez mis un peu... Alors, je vous dis aussi, hein, faites attention quand vous répondez, il ne s'agit pas de mettre tout le texte. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que si dans, parmi les réponses justes, vous collez des réponses fausses, ça va compter négativement. Hein ? Il y en a parmi vous pour lesquels j'ai compté le nombre d'éléments corrects sur par exemple le vocabulaire tragique. Si je décompte les éléments incorrects, j'arrive à 0. Hein, je compte les éléments corrects, j'arrive à 9 ou 10. Je décompte les éléments incorrects, on arrive à 0. Alors j'ai pas mis 0, mais enfin bon, ça diminue votre note, c'est obligatoire. Hein. Bon. Alors, je vous propose, oui, je vous propose, malheureux pour le tragique, ça peut être intéressant, c'est un peu faible comme terme, mais enfin, bon, mourir, c'est mieux, hein. Cruel, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a encore, spadassin, mais spadassin, moi, j'hésiterais, hein, je l'ai mis, mais le danger de spadassin, c'est que c'est plutôt un personnage du drame, le spadassin, qu'un personnage de tragédie. Hein, parce que le spadassin, c'est un exécuteur accident, enfin d'un contrat. Hein, et il y a quelque chose d'un peu accidentel dans l'action. Mais il y a l'image de la mort quand même derrière. Hein. Oui. On a dit spadassin. Alors, vous avez eu, je pense, raison, me débarrasser du premier qui entrera, l'expression complète, hein, puisqu'on ne vous demandait pas un champ lexical, on a dit des éléments, donc vous pouviez prendre un bout de phrase tout entier. J'ai mis dans le vocabulaire tragique le terme déshonneur, hein, parce que dans la tragédie, l'honneur, c'est quelque chose qui joue un rôle important. Le sens de l'honneur, c'est-à-dire plutôt mourir que perdre mon honneur. C'est souvent, ça n'est pas rare dans le thème des tragédies. Ensuite, le terme vertu. Hein, rappelez-vous que vertu, ça veut dire avoir des qualités morales, mais qu'au départ, ça vient d'un mot latin, virtu, qui veut dire avoir de la force physique. Hein, au départ, la virtu, c'est la force physique. Bon, donc, le sens a glissé de la force physique vers la force morale. Ensuite, vous avez colère, oui, colère, je pense qu'on peut le mettre dans le vocabulaire tragique parce que, à cause des conséquences de cette colère. Je machine une épouvantable trame, oui, hein, je pense que ça... Bien que on peut souligner, vous pouvez aussi mettre des commentaires en disant que, à la limite, c'est plus proche du vocabulaire du drame. Hein. Préparer un traquenard, c'est plus proche du drame que de la tragédie. Hein. Et puis enfin, mourir de douleur. Mourir de douleur, moi je dirais, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la tragédie. Dans le drame, c'est même pas sûr. Moi, je dirais que là, on est presque dans le mélodrame. Hein, celui qui meurt de douleur, c'est à la limite pas trop crédible, quoi. C'est d'ailleurs la réaction du valet qui dit « Oh que non, vous n'allez pas mourir de douleur, vous n'allez pas me laisser tout seul. » Mais il y a aussi « Oh que non, est-ce qu'on peut mourir de douleur ?» Hein, vous avez par exemple dans un grand roman du XVIIe siècle, La princesse de Clèves, eh bien, comment il s'appelle son amant, j'ai oublié, le comte, ah, j'oublie, c'est pas grave, celui qui est amoureux, le prince de Nemours, voilà, c'est pour ça que le prince de Nemours est amoureux de la princesse de Clèves qui est mariée à monsieur de Clèves, eh bien, la princesse de Clèves se pique comme Marianne de vertu, mais plus que Marianne. Vraiment. Marianne s'est affichée avec le livre de Metz, mais en réalité, elle va se taper le premier amant qui passera. Ça serait Octave, éventuellement, s'il était d'accord. Il n'est pas d'accord, mais on peut...